Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Friandises aux noix, boulettes sucrées, pâtés de faisan, tomates farcies, goulash serbe, poisson au paprika, quenelle, macaron, carême fouettée, marquise au chocolat. Dans les camps, pour tromper leur faim, des internés de toutes nationalités, des femmes mais aussi des hommes, des résistants, des juifs, des pratiquants, des athées, ont écrit des recettes de cuisine au péril de leur vie. Bonjour Anne Georget.
Bonjour.
C'est vous qui avez tiré de l'ombre ces carnets de recettes. Vous allez nous expliquer bientôt comment. Après les recettes de Mina Térésine 1944, vous avez réalisé un nouveau film, Festin imaginaire, toujours avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui élargit cette fois le propos à d'autres univers concentrationnaires, à savoir non seulement les camps nazis, mais aussi les camps soviétiques, le goulag, et japonais. Avec, en guise de fil rouge, cette question, quels besoins éprouvaient des détenus qui crevaient la faim, que le système poussait à s'entretuer pour un bout de pain? Quels besoins donc les poussaient à coucher sur le papier et changer des recettes de mets fabuleux, sachant que malgré cela, non seulement ils continueraient à avoir faim, ils continueraient à être torturés même par la faim, mais qu'en plus ils risquaient de mourir pour avoir eu l'affront de prendre une telle initiative. À quelle nécessité vitale répondait l'écriture de ces carnets? Pouvez-vous nous raconter dans quelles circonstances vous avez découvert en fait ces carnets?
Alors l'histoire commence il y a longtemps, elle commence en 1996, à l'époque j'habite aux États-Unis et je découvre dans la presse la sortie d'un livre qui s'appelait In Memory's Kitchen, qui raconte l'histoire d'un carnet de recettes écrit à Theresienstadt. Et immédiatement, cette histoire me touche très profondément et je me dis un jour, je ferai un film sur cette histoire. Donc je rentre tout de suite en contact avec David Stern, qui était le petit-fils de Mina, qui habitait donc à Washington. Et voilà, les choses, le contact est pris, mais il me faut à peu près 10 ans pour que les choses mûrissent et que je finisse par faire donc ce film, les carnets de Mina, et que j'écrive un livre au seuil sur la même histoire. Et puis voilà, j'avais fait ce long chemin d'une certaine manière et j'avais raconté cette histoire qui m'avait beaucoup émue et je pensais que c'était une histoire extraordinaire et unique. Extraordinaire, elle reste, ça j'en suis absolument convaincue en tout point. Mais après la publication du livre et la diffusion du film, j'ai commencé à recevoir du courrier. Alors c'était pas des sacs postaux, hein, c'était quelques lettres, mais quand même suffisamment pour vraiment m'intriguer, notamment parce qu'un certain nombre de ces lettres me racontaient l'existence de carnets écrits par des hommes dans les camps de concentration. Et donc j'étais très très étonnée parce que pour moi dans l'histoire de Mina, clairement au devant de la scène, il y avait une transmission de mère à fille. Bien sûr, les circonstances de l'écriture de ce carnet en faisaient quelque chose de tout à fait particulier, mais quand même il y avait cette dimension qui me semblait capitale et majeure, ce qui était d'ailleurs vraisemblablement le cas dans l'histoire de Mina. Tout d'un coup, en me pointant de l'existence d'autres carnets, je réalisais qu'il y avait peut-être d'autres moteurs, d'autres circonstances et j'ai eu envie de creuser. Donc j'ai repris mon bâton de pèlerin et j'ai commencé à chercher autour de ces différents carnets écrits dans différents camps.
Et comment vous expliquez que les carnets sont restés cachés dans les familles? Est-ce qu'ils étaient jugés indignes d'intérêt en fait, ces carnets de recettes qu'aucun historien s'y soit penché avant vous, d'une certaine façon. Enfin, vous n'êtes pas historienne, mais je veux dire, personne ne s'y soit vraiment intéressé avant que vous décidiez de consacrer un film, un livre.
Je pense qu'il y a plusieurs paramètres dans cette histoire. Une des choses, c'est certainement pas que les familles pensaient que ça n'avait pas d'intérêt. Et c'était évidemment des documents, ce sont évidemment des documents qui leur sont chers. Mais en revanche, je pense qu'ils avaient un peu peur de la manière dont le monde extérieur allait recevoir l'existence de ces carnets. Et d'ailleurs, c'était très clair dans les lettres que j'ai reçues qui m'informaient donc à la suite du film sur les recettes de Mina. On me disait clairement, vous allez pouvoir comprendre ce qu'on va vous expliquer. Mon père, mon grand-père, ma mère, ma tante, etc. ont écrit des recettes. Et on sait que vous allez nous prendre au sérieux. Vous n'allez pas considérer que parce qu'ils ont écrit des recettes, c'est qu'ils nous aient pas bien malheureux dans les camps, qu'ils n'étaient pas en souffrance, etc. Ils avaient vraiment très peur que de raconter l'existence de ces documents remettent en cause le martyre de leurs proches. Mmh. Et bien évidemment, c'est une des explications pour lesquelles les choses sont restées très longtemps dans le secret des tiroirs des familles. Pour ce qui est des historiens, je pense qu'il y avait d'autres grandes questions à explorer dans un premier temps, qu'il y avait une priorité, une urgence, hein, la nature du mal, l'organisation des systèmes concentrationnaires, etc. Enfin bon, donc voilà, c'était vraiment des grandes questions qu'il était nécessaire d'éclaircir, etc. Mais si on regarde bien, dans quasiment tous les récits de déportés, il y a une petite note de bas de page qui dit « Fréquemment, les déportés s'échangeaient des recettes de cuisine. » Et puis, on en est resté là. Mm-hmm. Si on prend, par exemple, un film comme « Nuit et brouillard », qui a quand même été étudié, chaque plan a été étudié, il y a un plan de 2 secondes sur « Écrevisse à la basquaise ». Donc, depuis 1956, théoriquement, on aurait pu s'interroger sur l'existence de documents comme ça. Ça n'a pas été le cas. Peut-être qu'il y a une petite dimension machiste de chez certains historiens, qu'on a pu se dire que c'était des histoires de bonnes femmes et que ça n'avait pas d'intérêt historique. Mm-hmm. Je pense aussi que la manière qu'on a de travailler l'histoire, la matière, elle évolue aussi et de plus en plus on accorde de l'importance à des choses qui ne sont pas comme ça majeures mais que ça a quand même sa valeur.
Mm-hmm. Comme vous le disiez, ça concerne bien sûr des femmes, mais aussi des hommes. Et votre film s'attarde assez longuement sur le témoignage d'un rescapé du camp de Fleua, en Saxe, hein, c'est ça, où étaient internés, je crois, 100 de Français qui faisaient partie du convoi des tatoués. Qu'est-ce qui vous a paru différent, en fait, dans ce témoignage des hommes, en fait, dans leur rapport à la nourriture,
La première chose qui m'a interloquée, c'est d'abord l'existence même. C'est-à-dire que tel que je me représentais les hommes dans les années 40, je ne les voyais pas beaucoup à la cuisine. Sans doute moins qu'aujourd'hui, où il y a beaucoup d'hommes pour qui la cuisine est un loisir. Alors, peut-être que mon a priori est faux, mais
oui,
voilà.
C'est vrai que c'est plus le domaine des femmes, quoi, la cuisine des mères, des femmes.
Voilà, exactement. Donc, j'étais vraiment très, très étonnée que des hommes aient eu recours à ce type d'écriture dans les camps. Et
d'autant que c'est des recettes très précises. Hein, je veux dire, c'est avec les termes techniques,
Elles sont relativement précises. Alors, c'est très variable. Hein. Il y en a aussi où c'est très lapidaire, c'est 3 phrases sur le rhum steak. Et puis en face, il y a marqué « très bon ». Voilà, donc là, on sent que c'est quelqu'un qui a mis du cœur à raconter certainement une recette qu'il aimait beaucoup, mais qui est moins dans le détail de proportions ou de choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez stupéfiant de voir presque 500 recettes. Hein, je crois que j'en ai répertorié 486 ou quelque chose comme ça, écrites par ces hommes. Et encore une fois, alors certaines avec une grande technicité. On peut imaginer qu'il y ait eu parmi eux des gens qui étaient soit cuisiniers, soit charcutiers, c'est pas exclu. Ce qui est sûr, c'est que Marcel Letertre, qui était un peu le scribe de ce groupe d'hommes, une trentaine d'hommes, hein, d'après tous les noms qu'on a pu répertorier, lui était commerçant, donc il n'était pas du tout dans le domaine de la nourriture. Mais c'est lui qui a consigné, après ce rituel qui était le dimanche après-midi, qui était leur seul jour de repos, peut-être aussi parce qu'il avait une écriture qui était toute petite, très, très jolie. Et voilà, il était en charge d'écrire ces échanges qui se faisaient le dimanche après-midi au sein de ce petit groupe qui avait été surnommé les Mousquetaires de la Fourchette.
Ils avaient dérobé, pour la reliure du livre, c'est un morceau de carlingue, c'est ça ?
C'est ça.
Ils prenaient d'énormes risques. Hein, vos témoins le disent dans le film, ils risquaient la pendaison, clairement.
Oui, ils risquaient la pendaison parce que ça pouvait être assimilé à du sabotage. Donc les déportés de ce camp devaient fabriquer des ailes de Messerschmitt, donc d'avion. Et donc ils travaillaient avec du métal. Ils avaient récupéré 2 chutes de métal. Hein, c'est petit, il faut imaginer une petite cartoline comme ça, en métal. Au départ, ils avaient vraisemblablement pris une feuille qu'ils avaient pliée en deux. Puis on voit bien que la feuille est très, très abîmée. Donc ils se sont dit que ça n'allait pas tenir le choc. Et je pense qu'ils ont jugé que ce manuscrit était suffisamment précieux pour qu'il fallait tout faire pour le protéger. D'où cette idée de shipper des morceaux de carlingue. Mais encore une fois, c'est vrai que s'ils avaient été pris avec ça, ça pouvait très mal tourner.
C'est émouvant de les voir d'ailleurs manipuler. Enfin, j'imagine que c'est des facsimilés, mais il y a dans votre film cette attention portée à l'objet lui-même, l'objet livre, l'objet carnet. dans sa matérialité. C'était important pour vous aussi de les donner à voir, de même que vous donner à entendre hein, ces recettes, on va en reparler.
Oui, c'était très important pour moi de les donner à sentir. Mm. La première fois que je suis allée voir le carnet de Marcel Le Tertre, j'étais vraiment très très émue par cet objet et je considère que dans mon film, le principal personnage, ce sont les carnets. Donc, ils sont très différents. Celui-ci est couvert, donc, protégé par deux petites plaques de métal. Celui écrit Ravensbrück est un carnet qui était relié vraisemblablement avec du fil et qui a une couverture sur laquelle est dessiné un petit champignon un petit peu enfantin où il y a marqué Ravensbrück 1944. Donc, rien que ça, le choc de ces deux éléments est quelque chose de très fort. On en reparlera peut-être plus tard, mais le carnet russe est écrit sur du tissu. Donc, chaque carnet raconte finalement un peu du camp. Un autre carnet qui a été écrit à Leipzig a été écrit sur des feuillets publicitaires de l'usine. Donc toutes les feuilles à l'envers, il y a un gros dessin de phare de moto, puisque c'était le cas avant que l'usine soit transformée en autre chose pendant la guerre. Voilà, donc chacun de ces carnets raconte un peu de la réalité du camp. Et pour moi, c'était très important de les donner à manipuler aux chercheurs que j'allais rencontrer. Je me suis dit que ça allait vraisemblablement éclairer leur réflexion, comme moi ça avait éclairé mon désir d'avancer dans cette histoire.
Et donc vous donnez aussi à entendre ces recettes qui sont lues, enfin chuchotées par des voix de femmes qui s'entremêlent dans différentes langues. Et qu'est-ce que vous vouliez suggérer avec ce chuchotement en fait ? Est-ce que c'était le danger de mort ? Est-ce que c'était la sensualité ?
Alors, le film n'est pas chuchoté du début à la fin. Non, ça évolue. Justement du chuchotement vers quelque chose de plus affirmé.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on démarre avec le film sur un chuchotement. Après, bon, c'est des interprétations de cinéastes, j'allais dire. Hein. Donc, dans mon esprit, au début, en installant cette histoire, j'imagine que quand ces femmes et ces hommes arrivent dans le camp, pas encore très assurés de maîtriser les codes, les dangers, de savoir où il faut regarder, etc. Je me suis raconté cette histoire-là à moi-même. Mmh. Hein. Après, c'est une interprétation. Dans un premier temps, oui, ça se fait à demi-mot, à mot couvert. Et puis, petit à petit, parce que ça donne de la force aussi de faire ça, et que c'est une activité en groupe, et que c'est une activité partagée. Ça, je crois que c'est vraiment très, très important dans cette histoire. Les voix montent un peu et deviennent même un petit peu plus joyeuses parce que c'est important pour rester en vie d'avoir accès aussi à un petit peu de joie. Alors évidemment avec tous les guillemets qui s'imposent, hein, c'est pas la même joie que celle qu'on peut connaître aujourd'hui, mais c'est aussi affirmer à la face du bourreau qu'on est des humains, qu'un humain ça a du plaisir sensuel, du goût, du souvenir, de tout cela, et que oui, on n'est pas des animaux qui mangeons par terre. Même s'ils
n'ont que les mots finalement, puisque c'est un festin de mots aussi que je trouve vous nous faites entendre aussi dans toutes les mots, dans toute leur sensualité, dans ces mots de recettes qui sont effectivement, on pourrait penser au départ chuchotés par crainte d'être entendus, mais en même temps ils sont savourés ces mots quelque part.
Oui, tout à fait.
Qui tiennent lieu de nourriture.
Oui, enfin. Oui. Et puis, je voulais aussi rendre cette idée, puisque j'ai filmé le mémorial de Ravensbrück, par exemple, aujourd'hui. Donc, je n'ai pas filmé le camp, j'ai filmé le mémorial tel qu'il est aujourd'hui. Il est vide, il est... Mm. Voilà, donc c'était un petit peu aussi l'idée de se dire que les murs ont de la mémoire et de faire revenir la présence de ces femmes, par exemple, avec toutes ces nationalités qui parlent en hongrois, en tchèque, en allemand, en français...
En russe. Et donc, vous avez choisi une approche pluridisciplinaire donc, dans ce film pour cerner ce phénomène en faisant appel à des historiens, des philosophes, des anthropologues, des psychanalystes pour répondre justement à la question pourquoi ces recettes et quelles sont les réponses finalement que votre enquête vous a permis de...
Alors, ce sont des hypothèses, parce qu'évidemment, je suis très reconnaissante à tous ces chercheurs qui ont accepté de jouer le jeu, finalement, d'une non-expertise, parce que des spécialistes des recettes de cuisine écrites en univers concentrationnaire, il n'y en a pas.
C'est ça.
Donc, par définition. Donc, je suis allée rencontrer des gens qui avaient travaillé sur des sujets connexes. Certains avaient travaillé sur la faim, certains avaient travaillé sur la résilience, certains avaient travaillé sur la Shoah, voilà. Donc, je leur ai soumis, et là, c'était important d'avoir tous ces facsimilés que j'avais fait fabriquer des carnets pour qu'ils travaillent, qu'ils les regardent, les manipulent, essayer d'aller dans leur contenu, etc. Et ils sont arrivés à un certain nombre d'hypothèses. Par exemple, quelque chose qui est assez clair, c'est que ça transcende toutes sortes de différences, que ce soit de la classe sociale, que ce soit des différences intellectuelles ou autres. Il n'y a pas besoin d'être un musicien, un intellectuel, un poète. Tout le monde peut se souvenir d'une recette de cuisine ou d'un repas qu'il a partagé. Donc déjà, il y a quelque chose qui est... Et puis c'est quelque chose de non conflictuel. Donc on ne s'oppose pas sur des idées politiques ou sur quelque chose comme ça. On se retrouve. On se retrouve. C'est un matériau qui est un matériau de rassemblement et de partage, très important. Tout le monde m'a vraiment pointé que le monde concentrationnaire est conçu pour opposer les uns aux autres et où la survie est tellement hasardeuse pour chacun d'entre eux que finalement on peut regarder à côté en se disant si je lui chipe un bout de pain, voilà, c'est le début de la fin. Donc cette idée de partage, de réinstaller dans un espace au sein du camp, cette notion de partage qui est tellement intrinsèque à l'humain, je pense, était quelque chose de très important aussi. Une autre hypothèse, c'est que l'univers concentrationnaire était conçu pour être absurde. On faisait transporter des pierres d'un côté, puis le lendemain de l'autre. Enfin, ça n'avait aucun sens. Donc, c'était un épuisement physique et moral et intellectuel à faire des choses dénuées de sens pour rendre les gens beaucoup plus serviles, pour les rendre fous, les briser, les désorienter. Voilà. Et il est possible que la nature même des recettes, avec les séquences de préparation, avec les listes d'ingrédients, avec le fait qu'on mange pas la même chose le matin que le soir, avec les saisons, avec tout ça, réinjectait peut-être un petit peu de sens, un petit peu d'ordre, une sorte de colonne vertébrale, un petit peu dans un monde totalement fou, et peut-être apporter un petit peu d'apaisement de ce fait. Ce sont bien sûr des hypothèses. On peut pas aller forcément beaucoup plus loin. Quelque chose aussi d'important, c'est que les déportés que j'ai rencontrés m'ont dit qu'une des règles d'or, c'était de ne jamais évoquer la vie d'avant. On n'évoquait pas ses parents, on n'évoquait pas ses enfants, son conjoint, parce que ça semblait tellement inaccessible à tout jamais que si on s'arrêtait à ce souvenir, et notamment si c'était un souvenir passif, j'allais dire, si on était sur son chalet et qu'on se souvenait du bonheur, on s'en relevait pas, c'était dangereux, c'était très dangereux. Là, on est dans quelque chose, on est dans de l'action, justement, on est encore une fois dans ce partage, un partage verbal, un partage de souvenirs, et là, le souvenir devient possible, parce que justement, il n'est pas solitaire. On est dans une action, on écrit quelque chose, on fabrique un objet, et là, ça devient non seulement possible, mais nourrissant.
Alors ça, c'est très intéressant dans votre film, on ne s'y attend pas du tout. Comme je le disais en propos liminaire, on se dit que ça ne peut, non seulement ça ne va pas les rassasier, mais que ça peut même accroître, aggraver leur faim, finalement, à l'évocation de tous ces plats. Et vous faites témoigner notamment Edith Comboche, qui dit hein, « Nous après ces échanges gourmets, nous nous sentions rassasiés ». Et vous faites même témoigner un neurologue qui confirme que ça pouvait véritablement avoir un effet d'assouvissement, quoi.
Tout à fait. Edith, donc,
c'est prouvé chimiquement. Voilà.
En fait, l'idée, c'est que pour rester en vie, vraiment, la vie a besoin d'un minimum de bien-être. Elle n'a pas besoin que d'eau, de nourriture, etc. Mais que si la vie ne vaut plus d'être vécue au niveau moléculaire, presque, ça s'arrête. Et que là, en fait, en recréant toute cette stratégie de trouver un espace, etc., d'évoquer ces bonnes choses, ces bons moments, faisait finalement renaître au sein des organismes tellement malmenés, tellement à bout dans des circonstances si extrêmes, faisait renaître cette ce petit, on peut imaginer cette petite braise sur qui tout d'un coup, sur laquelle on souffle tout doucement et qui garde quelque chose au chaud pour survivre jusqu'au lendemain et puis encore au lendemain. Il ne s'agit pas de faire des grandes projections sur voilà, même s'il y en a parmi eux, comme Edith Gombous d'ailleurs à Ravensbrück, qui elle avait clairement dit j'étais déterminée à survivre, je ne savais pas faire cuire un œuf, toute ma famille avait
elle
disparu.
Elle a l'esprit très pratique.
Ah, oui, elle dit,
je vais en profiter pour.
C'est ça. Je ne sais rien faire, mais je vais survivre, je vais sortir de là. Et toutes ces femmes qui racontent des recettes de cuisine, eh bien voilà, ça va être un formidable début dans la vie. Je vais les noter et de fait elle est partie, elle a survécu à la guerre et elle est partie ensuite en Australie en exil avec son carnet dans la poche.
Finalement c'est un acte de résistance aussi ces recettes, est-ce qu'on peut le voir comme ça?
Je pense qu'on peut voir dans l'écriture de ces recettes un acte de résistance. Après, il était plus ou moins planifié, plus ou moins conscient. Je pense que ça a pu être quelque chose qui est venu de manière presque instinctive et que nous, quand on le regarde aujourd'hui, on y projette un dessin de résistance.
Acte de résistance bioculturel, je crois, dit un de vos...
Oui, c'est un
anthropologue.
Un anthropologue, oui, Jean-Pierre Poulain, qui dit ça. Il dit bioculturel. Pourquoi bio? Parce que, comme on vient de le dire, ça c'est ancré dans le physique,
oui, oui.
Hein, donc ça permet de quelque part de se nourrir un petit peu, et puis culturel parce que ben oui, la culture ça permet de rester debout, ça permet de rester vivant. Pour certains ça a été l'écriture de pièces de musique ou de poèmes, c'est pas à la portée de nous, tout le monde, et la cuisine fait partie de la culture.
Et permet, ce qu'il dit, l'entretien des identités sociales, hein, auxquelles la cuisine, dont la cuisine est une des expressions d'identité sociale.
Identité sociale, identité régionale aussi, parce qu'il y a beaucoup, on sent bien dans les carnets, à mesure qu'on les feuillette, qu'il y a du cassoulet, puis là on se dit, ah, là c'est un breton, là c'est clairement des Alsaciens, une sorte de plusieurs recettes de choucroute, toutes choses comme ça, d'Appenzell. Voilà, donc oui, ça permet de raconter tellement qui on est, de raconter ce qu'on mange et ce qu'on aime et ce qu'on aurait envie de cuisiner pour ses amis ou de se souvenir qu'à Noël on mangeait ça ou pour l'anniversaire on mangeait ça. Quand on réfléchit, c'est vrai, alors on y pense moins nous parce qu'évidemment chaque repas n'est pas un enjeu, mais si on s'arrête deux secondes, on voit bien tout ce que ça charrie un repas.
À cet égard, on peut penser à la suite de c'est Michael Birnbaum, qu'il y a une spécificité quand même de ces carnets de recettes dans le contexte de l'anéantissement des Juifs d'Europe par rapport au goulag et par rapport au camp japonais. C'est laquelle, à votre avis?
Alors, c'est quelque chose, en effet, qu'a pointé Michael Birnbaum, que je trouve très intéressant. D'abord, il était très surpris de l'universalité de ce phénomène, parce que lui était au courant de l'existence des carnets de Mina, donc le tout premier carnet que j'avais entendu, puisqu'il avait été déposé à l'US Memorial aux États-Unis au moment où Michael Birnbaum y travaillait. Donc, il connaissait l'existence de ce carnet. Il était déjà un peu convaincu lui-même que c'était quelque chose d'important. Quand je lui ai apporté tous ces facsimilés de carnets russes et autres, il a été assez surpris, mais il a pointé quelque chose qui est très important, qui m'a dit les déportés juifs avaient bien conscience qu'on voulait les détruire eux, physiquement, les uns derrière les autres, toutes les familles entières, etc. Mais on voulait aussi détruire tout le monde juif, on voulait que le faire disparaître, ça n'aurait dû jamais exister, c'était ça le dessein ultime. Et le fait de justement, parce que c'est culturel, la cuisine, il disait que ces carnets avaient pu constituer presque à la lettre une sorte de résumé, de concentré de toute cette culture.
D'essence, hein, il dit même, je crois. Merci beaucoup, Anne-Georgette. Je rappelle que votre film Festins imaginaires sera diffusé le 5 novembre sur Planète. Film qui a été présenté au Festival international du film de Berlin, j'ai oublié de le dire, dans la section cinéma culinaire en février dernier. Il sera projeté aussi avec les recettes de Mina dans le cadre du mois du film documentaire au Mémorial de la Shoah, le 22 novembre 2015, en votre présence et en présence également de Luba Jorgensen, qui est donc interviewée dans le film, qui est maître de conférence en littérature russe et écrivain. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.